J'ai l'extrême plaisir de d'accueillir ce soir, dans le cadre des rencontres Olivieri-Krilg, du lundi, Évelyne de la Chenelière, qui est auteure dramatique, comédienne, metteur en scène.
De plus en plus.
Et bien sûr, bon, comme vous êtes peut-être familier de ces rencontres, sous le sceau de l'amicalité, c'est-à-dire que nous essayons de parcourir avec l'auteur un certain nombre de ses œuvres et d'essayer de comprendre un peu ce qui la détermine dans son écriture. Et avec Évelyne de la Chenelière, on a l'embarras du choix puisqu'elle a déjà à son actif plus de 14 textes, dont le premier aura été écrit, d'après mes notes, en 1999?
Oui, c'est vrai.
Alors, voilà que ça fait à peine 10 ans qu'elle écrit pour le théâtre et qu'elle s'est tout de suite fait remarquer par la critique et, bien sûr, je pense par le grand public, puisqu'une de ses œuvres les plus connues, et on aura l'occasion d'y revenir parce que depuis, il a coulé beaucoup d'eau sous les ponts. Sa première œuvre, donc, il a fait connaître, c'est Des fraises en janvier,
oui,
qu'elle a écrite en 1998 et qui a été créée à Carleton en 1999. Puis, et c'est là que les choses ont commencé un peu à se répandre, qui a été reprise à la compagnie Jean Duceppe.
Oui, mais d'abord au théâtre d'aujourd'hui.
Ah, c'est d'abord le théâtre d'aujourd'hui, puis ensuite
oui,
ça a émigré
ça.
Vers la compagnie Jean Duceppe, qui, bon, rejoint un large public populaire, disent certains. Et donc, en 2002, en 2002, donc, cette œuvre avait déjà parcouru au moins 3 scènes. Hein? Ensuite, la carrière de la pièce ne s'est pas terminée là. Elle a ensuite été traduite en anglais. Elle a été jouée en anglais aussi. Et traduite également en allemand et en scot.
Oui, en fait en anglais, mais pour l'Écosse.
Pour l'Écosse, oui. D'accord. Bien, alors, j'ai déjà dit qu'elle avait au moins 14 textes à son actif, dont 3 co-signés avec son compagnon de vie, également acteur et metteur en scène, Daniel Brière. Le plus récent texte d'Évelyne de la Chenelière a été créé en janvier dernier au Nouveau Théâtre Expérimental où elle a beaucoup travaillé. On aura l'occasion d'y revenir parce qu'il y a une mention à un moment donné dans une critique qui dit que ça fait très espace libre. Alors, peut-être qu'une des premières questions qu'on aura à débattre, c'est est-ce qu'il y a un style d'espace libre auquel vous correspondez? Donc, la pièce créée récemment s'appelait « Le plan américain ». Elle est encore inédite. J'imagine qu'elle sera publiée comme beaucoup de vos pièces. Toutes ne sont pas encore publiées, cependant, je pense. Mais là, au rythme où vous écrivez, les éditeurs sont plus lents d'habitude. Donc, elle est une des auteurs les plus prolifiques de sa génération. On a eu un petit débat à savoir si... Mais elle ne semblait pas vouloir qu'on en parle
non,
vraiment.
Non, ça me dérange pas.
Les questions de génération. Mais, donc, je continue un peu son parcours. Après « Des fraises en janvier », on peut certainement nommer « Au bout du fil ». Qui est une pièce très différente et qui me frappe. Bon, c'est une première observation. D'abord par le nombre de personnages, qui est une rareté, qui, en tout cas, je suis heureux de voir que les directions de théâtre montent encore des pièces à plus de 3 personnages.
Oui, heureusement.
Et donc, cette pièce a été créée au théâtre de Catsou en 2003. Et elle a été adaptée au cinéma. Ça, j'ai pas vu cette réalisation de Jeannine Gagné.
Oui.
Et c'est en quelle année que ça a été réalisé?
Je crois qu'un an après, en 2004.
En 2004.
Oui.
Donc, ça me plairait de voir la réalisation. Est-ce que c'était la même distribution?
Non.
Ah, pas du tout. Bien. Ensuite, je veux parler d'Henri et Margot. en 2002, créée au Nouveau Théâtre Expérimental, et qui est une pièce à deux personnages, oui. C'est ça, et qui met en scène, en fait, c'est une sorte d'autofiction. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec l'appellation, puisqu'il y a beaucoup question de théâtre, de,
oui.
de vie d'acteur, etc., avec bon, un regard un peu ironique sur, sur les circonstances qui entourent souvent le métier.
Oui.
Ensuite, une pièce que j'aime beaucoup, qui s'appelle Bachir Lazare, qui a été créée au Théâtre d'aujourd'hui en janvier 2007, mais qui avait déjà été écrite en 2002, une année très prolifique, si j'en juge par le nombre de pièces. Et, bon, pour dire d'un mot, on va revenir sur certaines de ces pièces, j'en doute pas, mais pour dire d'un mot, il s'agit d'un monologue, d'un professeur qui est un remplaçant dans une école primaire et qui vient d'Algérie pour donner les circonstances de base de ça. Mais c'est un très beau texte.
Merci.
Et une autre pièce que j'aime beaucoup, les autres, je n'ai pas dit ça, mais je ne voudrais pas être trop abusif dans mes compliments. Donc, Désordre public qui a été créé en 2004 sous le titre Aphrodite en 04, voilà. Et qui, était une sorte de work in progress live, hein, oui. Puisqu'on a fait des changements en cours des séries de représentations.
Absolument, c'est ça.
Dont témoigne, avec éloquence, je ne sais pas s'il y a une sélection des passages supprimés ou ajoutés, mais en tout cas, c'est très éclairant de voir l'édition qu'en a fait Fidesz, une excellente édition à tous égards. Et donc, il nous permet de retracer les choix qui se sont faits en cours de, non pas de production, mais pendant les représentations.
Oui, c'est-à-dire que les répétitions, plutôt que d'avoir eu lieu avant les représentations, c'est-à-dire 4 ou 6 semaines avant la première, ont eu lieu à partir de la première.
C'est ça, devant le public.
Tous les jours pendant le mois des représentations.
C'est ça. Il y en a même question à l'intérieur même du texte.
Oui, oui.
Bon. À savoir que, justement, c'est un work in progress, mais devant public. Donc, j'ai un passage, le passage final de Mars, que je trouve très beau, mais je vais quand même vous laisser d'abord faire quelques lectures d'extraits.
Avec plaisir.
Alors, je ne sais pas, vous allez nous dire tout simplement là, quels sont les extraits que vous avez choisi de nous lire.
D'accord. D'abord, bonsoir. Je ne vous ai même pas salué. Merci d'être ici. Ça me fait vraiment plaisir de parler de... Oui, j'ai le sentiment de venir parler de mon travail, mais j'ai surtout le sentiment de venir parler d'écriture et donc de quelque chose qui me passionne et que j'imagine vous passionne aussi, ou en tout cas, du moins, vous intéresse, l'écriture. Quand est venu le temps de donner un titre à cette rencontre-là, ça m'a obligé à faire l'exercice de trouver un petit peu, en tout cas selon moi, qu'est-ce qui pouvait résumer ou en tout cas quel pouvait être le dénominateur commun de ma recherche au fil de mes années d'écriture, parce que je considère que je suis une chercheure à ma façon. Et je me suis aperçue que l'espèce de fil conducteur entre l'écriture théâtrale, pour moi, était vraiment la quête de l'autre. La quête de l'autre dans sa compréhension, dans la compassion, mais pas la compassion qu'on associe forcément au bon sentiment, pas la compassion dans son sens vertueux, parce que j'ai pas cette prétention-là. Quand je dis chercheur, je dis plutôt la compassion qui est la fascination curieuse de l'autre et pour l'autre, et qui fait en sorte que l'écriture dramatique est avant tout une écriture consciente du jeu à venir. C'est une écriture qui est consciente de l'acte théâtral à venir. Donc, c'est une écriture qui est consciente de ce qui va se produire sous les yeux d'un public, c'est-à-dire un être humain qui prend la place d'un autre être humain, créé, imaginé par un autre être humain. Et moi, ce jeu de transfert qu'est le théâtre me fascine, et c'est vraiment mon moteur principal, essayer de littéralement me mettre dans la peau de l'autre, d'essayer de voir le monde ou la vie à travers sa lentille que je me serais imaginée. Et puis des fois, je me suis rendu compte que l'exercice avait semblé peut-être plus évident quand il partait de l'intime, c'est-à-dire quand on fait parler une femme d'environ mon âge, avec environ mes préoccupations et peut-être éventuellement environ mon parcours, le transfert se fait plus simplement, de manière plus intuitive. Mais j'ai aussi beaucoup aimé l'expérience inverse, qui est d'avoir tenté d'emprunter le regard de quelqu'un qui soit très très loin de moi. Donc, par exemple, dans le cas de Bachir Lazar, il s'agit d'un homme qui exerce une profession qui n'est pas la mienne, qui vient d'un pays qui n'est pas le mien, qui porte une culture qui n'est pas la mienne et qui a vécu une tragédie qui ne ressemble à rien de ce que j'ai pu traverser ou même de ce que je pense éventuellement traverser dans ma vie. Alors, tout ça pour vous dire que cet exercice-là de se mettre à la place de l'autre qui est dans le corps, le principe du jeu d'acteur, se fait aussi dans l'acte d'écriture. Et c'est pour ça que, quand est venu le temps de choisir des extraits que je trouvais éloquents, j'ai eu d'abord envie de vous lire, et c'est paradoxal parce que c'est pas théâtral, c'est anti-théâtral, c'est un avant-propos. Pourquoi? Parce que je prends les avant-propos très au sérieux dans les livres, parce que particulièrement dans l'écriture théâtrale, j'ai pas l'occasion de prendre la parole au je. Il y a une espèce de comment dire, d'intermédiaire qui est les personnages. Et puis, tout à coup, l'avant-propos me semblait vertigineux, impudique, parce que tout à coup, je me permettais de m'adresser aux éventuels lecteurs directement sans me protéger par une écriture dramatique. Et je me suis rendu compte que en prenant la parole de cette façon-là, c'est comme si j'avais résumé presque sans m'en rendre compte la raison principale qui fait que j'écris finalement, que j'écris en cherchant à comprendre l'autre. Et en plus, comme c'est très fréquent que les gens sautent par-dessus l'avant-propos, je me venge et je vous impose mon avant-propos. Alors, ça commence par trois petits points. Comme si j'avais déjà commencé, puis que vous me preniez en cours de route. C'est parce que je ne sais pas où mettre mon corps quand vous n'êtes pas là. Je le couche, je l'assois, je le fais tourner en rond, parfois je l'enfume, ou bien je pose mes mains dessus, mais rien n'y fait, il n'est pas content d'être seul. Dès que nous sommes deux, je peux au moins placer mon corps en face d'un semblable et ça le saisit. Alors évidemment que je frémis quand nous sommes ensemble. C'est que mon corps trépigne d'une joie intense comme le fait le chien quand il reconnaît. D'ailleurs, si j'avais une queue, je suis sûre qu'elle s'agiterait à votre vue. J'ai dû me rendre ridicule bien des fois auprès de vous. À force de béatitude, on ouvre trop grand la bouche et ça donne l'air bête. Mais c'est que vous m'aviez tant manqué. Je passe tout mon temps à me réjouir ou à me désoler, parfois les deux en même temps. Je manque définitivement d'indifférence, parce que je n'en reviens pas, et je ne reviendrai jamais de notre manière d'être ensemble. Comme des chiots, les yeux mi-clos et la gueule ouverte, trop nombreux pour le ventre chaud d'où nous sortons, nous nous bousculons, nous nous piétinons pour accéder à la mamelle la plus gorgée. Dans le désordre de notre mêlée avide, dans la cruelle ascension où les uns servent de marchepied aux autres, malgré notre volonté assassine, nous finissons pourtant par nous étreindre, par nous réchauffer, par nous lever accidentellement les uns aux autres, par trouver notre confort à même la violence qui nous unit. Quand j'arrache mon corps à notre désordre, quand je ne peux plus le mettre en rapport avec aucun autre, c'est là qu'il m'effraie le plus, même quand je lui ferme les yeux, on ne sait jamais avec lui. Alors pour l'occuper en votre absence, je le voûte au-dessus d'une feuille et j'écris ma fascination à votre endroit. Cette fascination perpétuellement renouvelée, je ne vous obligerai jamais à l'accueillir. Simplement, si je plante mon corps devant le vôtre sans raison apparente, ayez la bonté de ne pas partir tout de suite. Donc, c'est un avant-propos qui est pour moi encore plus intime que quand je prends la parole à travers une pièce de théâtre. Dans l'essence, je la sens à travers plusieurs personnages que je crée, c'est-à-dire ce besoin fulgurant et viscéral de l'autre. Et c'est aussi l'essence du théâtre, puisque c'est quand même un des seuls médiums où il y a une réelle rencontre physique les uns avec les autres. Et je crois que si j'avais pas ce besoin-là, peut-être qu'éventuellement je serais romancière, parce que c'est une relation où l'autre est virtuel dans la réception de l'œuvre, tandis qu'en théâtre, l'autre est physiquement là. Et puis, j'ai choisi un autre extrait qui parlait de l'urgence de l'autre aussi, dans une situation bien différente. L'autre étant souvent anonyme, souvent la plupart des autres qui nous entourent finalement, si on sort de notre réseau le plus proche, on est beaucoup plus entouré d'anonymes et de non-intimes que de proches, n'est-ce pas? Et c'est paradoxal, parce qu'on a l'impression des fois que cette masse anonyme, c'est presque un gaz, c'est presque quelque chose où les particules, si je peux dire, sont non identifiables. Et pourtant, moi, des fois, ça me donne le vertige quand tout à coup, je me mets à individualiser dans mon esprit toute cette masse humaine avec laquelle je vis tous les jours. Et ça a été le moteur de l'écriture de Désordre public, puisque ça se passe essentiellement dans les transports en commun, qui sont en soi un grand paradoxe, puisque évidemment c'est la solitude, mais en commun, dans cette masse anonyme. Et puis, donc rapidement, le personnage principal se met à entendre ce que les gens pensent autour de lui. Il a une sorte de maladie qui n'existe pas vraiment, évidemment, mais qui le dérange énormément, puisque c'est extrêmement déconcentrant, finalement. Hein. Vous imaginez si on se mettait à s'entendre les uns les autres. Alors, il est d'abord effrayé par ce phénomène. Ensuite, il est très irrité. Et puis, au fil de son parcours, il est tout à coup très, très concerné. Et c'est un peu ce que je ressens parfois, c'est-à-dire, pas à ce point-là, je me suis amusée à pousser ça jusqu'à la folie, presque. Évidemment, je suis quelqu'un qui fonctionne dans la société, alors je crois que j'ai une protection normale par rapport à ça. Et voici donc ce qu'il entend, entre autres choses. Ça sera pas long, excusez-moi. Alors, il entend une dame qui est dans l'autobus et qui tergiverse pour savoir si elle ira ou non à un rendez-vous qu'un homme lui a donné. Alors, Pauline pense. À moins que j'arrive juste un petit peu en retard, pour qu'il soit juste un peu plus content de me voir, qu'il a eu le temps de s'inquiéter un peu pour moi et qu'il y a eu un peu de neige accumulée sur ses épaules, et il me verrait arriver un peu au loin, parce que je serais d'abord un peu au loin, un peu floue, un peu incertaine, et peu à peu il reconnaîtrait ma forme de manteau parmi les autres formes de manteau, et j'avancerais un peu vite pour lui faire voir toute la bonne volonté que j'avais pourtant d'arriver à l'heure, et je lui ferais un petit signe de la main pour que les passants sachent que je vais à la rencontre de quelqu'un, que si j'emprunte le même trottoir qu'eux, c'est juste pour rejoindre quelqu'un qui m'attend. Et quand j'arriverais face à lui, on resterait muet, à se regarder plus loin que le fond des yeux, comme si on venait de survivre à quelque chose, comme si on avait risqué sa vie chacun de son côté et que maintenant la vie qu'on avait risquée nous réunissait enfin et on aurait besoin de se palper pour y croire et pour vérifier que tout soit bien intact et aussi vivant que la fois précédente. Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas de fois précédente avec lui? Pourquoi est-ce que je n'ai de précédence avec personne? Je veux de l'intériorité avec quelqu'un, mais la vérité, c'est que personne au monde ne pourrait voir en quoi je déplace mon manteau d'une manière distincte, parce que personne ne m'a jamais observé comme on observe bouger une personne qu'on aime. Et même si j'ai rendez-vous avec un anthropologue, ça ne changera rien à mon intériorité anonyme, c'est trop tard. L'anthropologue arrive dans son esprit. Pauline, je commençais à me demander si vous aviez oublié notre rendez-vous. Vous vous êtes perdue? Oui. Ça va, vous avez l'air étrange. Je veux savoir si vous êtes capable de me trouver une particularité, quelque chose qui fait qu'à vos yeux, je ne ressemble à personne. Pardon? Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous semblez affolée. Qu'avez-vous fait des minutes où je n'arrivais pas? Est-ce que vous m'avez espéré plus que tout au monde pendant plusieurs minutes de suite? Est-ce que vous m'avez vu arriver au loin en reconnaissant cette façon que j'ai de déplacer mon manteau? Avez-vous eu envie de crier aux passants qu'ils n'étaient pas les bons, qu'ils encombraient le trottoir où vous aviez rendez-vous avec moi? Avez-vous eu envie de grimper sur quelque chose pour voir plus loin que l'horizon où je n'arrivais pas? Et maintenant que je suis devant vous, êtes-vous ému au point de vouloir vous taire? Auriez-vous envie de faire plier mes coudes et de regarder mes dents pour vous assurer que tout est comme avant? Mais avant quoi, Pauline? Je sais bien que nous n'avons pas d'avant et c'est ce qui me désespère des premiers rendez-vous. C'est l'idée que le temps n'a encore rien fait pour que vous soyez mortellement attaché à moi. Mais il faut laisser faire le temps. Non, après ce sera trop tard. Moi c'est tout de suite que je veux de l'intériorité, c'est tout de suite que je veux des bons souvenirs. Je veux occuper tous vos souvenirs. Je ne veux pas vous rencontrer, je veux vous connaître depuis toujours. Je veux être la première fois et la première fois depuis très longtemps et qu'on se dise « c'est fou comme après tant d'années, c'est encore comme la première fois ».
Ouais, ceux qui se disent ça mentent toujours un peu.
Ça m'est égal, je serais prête à être nostalgique pour avoir vécu. Je n'ai pas le pouvoir de changer le passé. Alors tant pis, je n'irai pas à notre premier rendez-vous. Et voilà ce que le personnage principal, entre autres, entend dans cet autobus où il se passe plein de choses. Donc, j'avais choisi d'autres extraits, mais j'ai envie de m'arrêter parce que...
Oui, c'est bien.
Parce qu'il faudrait aussi
avoir la possibilité d'échanger un peu.
Oui,
je pense
oui.
que c'était tout à fait éclairant, les choix que vous avez faits. Et tout à fait dans le thème, puisque... Je voudrais partir avec ça, j'ai oublié de le dire en partant, donc je vais me rattraper en disant, bon, ce thème, l'autre et les autres, deux points, une dramaturgie, c'est à votre suggestion qu'on a adopté ce titre, et vous avez bien installé, je pense, disons, la préoccupation qui est la vôtre, d'aller à la rencontre de l'autre, de vous mettre à la place de l'autre, et la distinction que vous faites aussi entre l'autre et les autres étant une sorte de magma humain dans lequel qui est à la fois menaçant, lointain...
Duquel on se sent exclu souvent.
Oui, c'est ça. Et donc, cette opposition, il y en a une entre l'autre et les autres, qui est le mot pour dire masse anonyme. Et pourtant, bon, dans votre pièce « Désordre public », et j'aime beaucoup ce titre, je le préfère à l'autre, je pense que vous avez bien fait de changer. c'est pourtant les autres qui deviennent envahissants, mais qui sont très révélateurs, je dirais, d'états de fragilité, parce que si on se prenait la peine, on ne peut pas le faire, mais le théâtre a cette possibilité de nous donner accès à des destins, justement, puisque, comme disait Tchekhov, il n'y a pas de petits sujets au propre et au figuré, c'est-à-dire... Mm. Tous les êtres humains m'intéressent. Maintenant, moi, ce qui me frappe dans cette pièce-là, c'est justement, c'est il n'y a pas de destin exceptionnel. Mmh. Et évidemment, c'est déstabilisant pour Max, qui est votre personnage principal, à qui arrive cette mésaventure, appelons ça comme ça. Mais bon, ma première question, pourquoi vous avez choisi un homme, est-ce que c'est par volonté d'avoir une certaine distance pour aborder un sujet assez compliqué, finalement, quand on y parle?
Je crois que... comment dire...
C'est les hasards d'une distribution qui était
non,
déjà...
Non, c'est pas les hasards d'une distribution, c'est parce que je veux le dire, mais je veux le dire comme il faut, sinon ça va avoir l'air très arrêté comme idée, mais je crois... Oui, je le crois tout de même que c'est quelque chose de... de beaucoup de d'assez masculin, l'égocentrisme et le narcissisme. C'est gros ce que je vais c'est pas grave, je l'assume. Je crois que c'est propre
à... C'est plus masculin.
C'est plus masculin que féminin. Et ce personnage-là, qui donc va vivre une espèce de parcours initiatique malgré lui, qui va le faire perdre son identité, c'est-à-dire quitter le narcissisme au point d'en perdre son identité jusqu'à un point de non-retour. Je pouvais pas imaginer quelqu'un d'autre qu'un homme et de surcroît un acteur. Parce que c'est aussi une pièce sur qui part du paradoxe de l'acteur aussi, qui est par son essence et là acteur comme actrice des gens extrêmement narcissiques, extrêmement dans le besoin d'exister auprès des autres, etc. Mais le paradoxe, c'est que à la fois l'acte théâtral est justement cette espèce d'espace qu'on fait et cet oubli de soi pour incarner quelqu'un d'autre, une parole plus grande que la sienne, un destin plus grand que le sien, ou en tout cas au moins autre que le sien. Et c'est ce personnage-là, c'est pas par hasard qu'il est un acteur.
Bien, vous voyez, comme on avait la même pièce en tête, puisque vous avez choisi à la fois de nous lire l'avant-propos de Désordre public,
ouais.
Et un extrait de cette même pièce. Et moi, j'avais mis mon signet à la toute fin de cette même pièce. Je ne sais pas si je vais tout lire, parce que le propos de Max, qui m'apparaît être vraiment remarquable à la toute fin de cette journée un peu mouvementée qu'il a vécue. Et bon, c'est un peu long, donc je vais résister à la tentation de le faire maintenant. Mais je vais quand même vous inviter à lire cette pièce de toute urgence, parce que c'est une pièce fascinante. Et je pense que l'intérêt même, ce serait d'en préserver le caractère un peu aléatoire, c'est-à-dire qu'il puisse à chaque fois se greffer. Bon, je ne sais pas si vous seriez toujours là pour voir à faire des changements, mais avec les morceaux qui ont été soit retirés ou ajoutés, on peut voir une équipe s'emparer du matériau et commencer à jouer avec ça. Vous avez parlé d'intime, et je veux qu'on parle de ça un peu plus, puisque je pense que dès la première pièce qui vous a fait connaître, mais par la suite aussi, on a beaucoup dit, en tout cas, que c'est un théâtre de l'intime. J'aimerais que vous commentiez un peu de quel point de vue, est-ce que c'est une sensibilité que vous voulez fouiller, privilégier, et que, parce que vous avez dit, bien sûr, quand je fais mon avant-propos, je peux me mettre un peu à nu comme moi, comme je, mais il me semble qu'une des caractéristiques de votre écriture, c'est d'être capable de donner ce je ne sais quoi, appelons ça comme ça, parce qu'il n'y a pas de terme, je pense, pour définir le ton, la sensibilité presque à fleur de peau, sans tomber jamais dans la mièvrerie. Parce qu'il y a toujours comme contrepoids un peu d'humour, un peu de... les personnages parfois parlent au-delà de ce qu'ils pensent et donc il y a des accidents et ça c'est assez réussi. Mais bon, l'intime, qu'est-ce que ça vous amène à dire?
J'ai un rapport ambigu avec l'intime parce qu'à la fois je suis consciente que l'élan qui m'a menée vers l'écriture était avant tout quelque chose qui partait de l'intime. J'ai écrit d'une manière très, 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 très instinctive, très, très libre. J'ai écrit aussi, puis je le regrette pas, mais je crois qu'avec les années, je ne me permets pas d'écrire de la même manière. En ce sens où... Mais c'est très délicat, parce qu'à la fois, oui, ça existe encore, ces espèces de jets qui ne sont pas toujours contrôlés, et qui viennent parfois un peu de l'inconscient, mais à la fois, je crois que, et je crois que c'est mon travail, et que je dois le faire, que j'acquière doucement une maîtrise de mon art, qui fait en sorte qu'il y a des choses que je ne me permets plus d'écrire, je suis beaucoup plus consciente de l'objet que je suis en train de créer quand je suis en chantier d'écriture, et je crois que ça gagne de cette façon-là en richesse et en profondeur, en justement me permettant de tenter, du moins, de transcender l'intime pour accepter aussi d'être, comment dire, de prendre position davantage, je crois.
Maintenant, vous pensez davantage qu'avant?
Oui, je le pense. Mais encore une fois, c'est délicat, parce que je veux pas dire que l'intime n'existe plus, que...
Non, non.
Mais que... Comment dire?
Ça va.
On dirait que... Mais après... Après, chacun reçoit telle œuvre d'une façon. Peut-être qu'il y a des gens qui vont plus aimer ce que j'écris, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je peux plus me contenter de la même chose.
C'est parce que je pense Bachir Lazare, qui aurait pu être une pièce très didactique, très chiante.
Ah oui?
Non. Et vous voyez quelqu'un qui veut nous faire une leçon de vie ou nous dire, la condition opprimée des...
Ah oui, non, je parle pas de ça. Parce que je jamais...
C'est l'angle, c'est la façon dont il parle de lui.
Mm-hmm.
Et ça, c'est assez frappant. D'autant que, comme vous avez commencé par dire, vous n'êtes ni d'origine algérienne, ni un homme. Ni beaucoup d'autres traits qui définissent a priori ce personnage. Mais c'est un être humain. Et c'est ça qui nous le rend tout de suite touchant. Et en même temps, il nous passe plein de choses qui, à mon avis, sont justes. Hein? C'est la justesse du personnage, moi, qui me touche.
Mais je crois... j'entends ce que vous dites, puis je crois que tant que le geste d'écriture est authentique, tant qu'il est authentique, il peut pas devenir didactique si on l'est pas. C'est-à-dire que je vais pas travestir ou m'inventer un regard sur ma société ou sur mes contemporains qui me mettent en position
d'autorité,
ce que je ne ressens pas. J'ai aucune solution à apporter à tous les problèmes. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je vais pas faire semblant d'avoir ce regard-là. Je ne l'ai pas. Je suis moi-même dépassée par tout. Alors, je risque pas de faire la leçon à personne. Vous comprenez?
Partout, je suis pas sûr.
Partout, je suis dépassée.
Par le théâtre aussi?
Oui, tout.
On va y revenir, vous avertis. Bien. Oui, en effet, vous avez pas, c'est pas ni péremptoire, là, ni en surplomb. Hein? C'est pas une position en surplomb sur le monde.
Ben
sur les
non,
êtres.
Je serais incapable. J'ai aucun complexe de
supériorité. Donc, parce que vous êtes comme ça. Non. Le métier, il y a le travail. Parce que je sais pas combien de. Est-ce que vous, comment dire? Est-ce que vous corrigez beaucoup vos textes? On va entrer un peu dans la fabrique de l'écriture. Parce que vous écrivez aussi beaucoup depuis la scène, c'est-à-dire que vous travaillez beaucoup dans des équipes ou en tout cas en contact avec des acteurs. Vous-même, vous êtes comédienne. Moi, j'ai tendance à dire qu'il y a deux types d'écriture et qui sont chacune légitimes et qui ont chacune leur mérite. Ce que j'appelle la dramaturgie de l'acteur, c'est-à-dire une écriture qui s'écrit depuis la scène. Je ne sais pas si l'expression peut vous dire quelque chose, mais je pense que vous oscillez entre les deux. Ce qui m'intéresse, c'est que vous êtes un cas.
Non, mais c'est vrai.
Donc, il y a l'écrivain, disons, de cabinet, qui travaille chez lui, puis il ne veut surtout pas parler à un metteur en scène pendant qu'il écrit, puis ça va le distraire de l'essentiel. Il va aller au bout de ce qu'il a écrit. Bon, l'exemple, par exemple, parfait, de ce type d'attitude, je pense, c'est Normand Charette, par exemple.
Ouais.
Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en contact avec des gens de théâtre pour autant, mais après avoir écrit. Hein? Alors, bon, parlez-nous de votre processus d'écriture. Est-ce que vous brouillonnez beaucoup? Comment ça se fait?
Mais c'est très long. Souvent, je ne sais pas par quel mystère, les gens ont l'impression que j'écris vite et que je travaille vite parce que j'ai plusieurs pièces derrière moi, mais je travaille pas vite du tout. C'est juste que je travaille beaucoup. Mais chaque chose est un lent processus. Et c'est vrai que je suis un peu à cheval. Je trouve que votre perception est assez juste. Je suis un peu intimidée. Non, c'est que je me sens... C'est toujours l'espèce de va-et-vient entre le groupe et la solitude. Et ce qui est certain, c'est que je crois que mon écriture est une écriture de très, très consciente, encore une fois, de l'acte théâtral. J'ai donc le sentiment d'écrire des partitions, littéralement. Je me sens parfois beaucoup plus près de la musique que de la littérature, parce que écrire du théâtre, c'est écrire du temps. Et c'est très, il faut s'en rappeler toujours, parce que quand on écrit donc un roman, celui ou celle qui le reçoit va être maître de son temps, maître de la façon dont il va absorber cette fiction. Si on parle de fiction, il va pouvoir fermer le livre, le reposer, y réfléchir, etc. Tandis que dans le théâtre, ça se passe là. Donc moi, j'écris du temps. Mais à la fois, des fois, je déroge à des règles de base par rapport à la dramaturgie consciente du temps, parce que j'aime trop la littérature, j'aime trop les mots, j'aime trop l'écriture, et je me dis, j'ai la chance de pas écrire pour des médiums qui ne permettraient pas les écarts que je me permets. J'écris pas pour la télévision, j'écris pour le théâtre, et s'il y a encore un lieu où on a le droit de justement de faire se côtoyer toutes sortes d'univers, que l'onirisme côtoie le naturalisme, etc., c'est bien le théâtre. Alors c'est vrai que dans ces espèces de bulles-là, j'ai l'impression d'exister comme écrivaine plus que comme femme de théâtre dans ces moments-là, vous comprenez? D'accord. Et ça,
est-ce que c'est un peu ce qui vous guiderait à partir de maintenant, un peu dans la même veine que vous dites, d'aller dans un autre type d'écriture que, bon, caractérisé par l'intime, et d'aller vers un autre type d'écriture aussi, parce que vous reprendriez davantage votre responsabilité d'auteur par rapport aux équipes avec lesquelles vous avez travaillé, sans renier quoi que ce soit?
Je comprends votre question, puis je me rends compte que pour être tout à fait honnête, c'est une prise de position qui précède pas le geste. Mais je me rends compte, par contre, qu'à chaque fois que j'envisage un nouveau projet d'écriture, j'essaie de me créer des conditions qui vont être bousculantes par rapport à mes expériences précédentes. Et je ressens, encore une fois, c'est tout à fait indépendant du résultat. Ça garantit pas que... Mais je sens mes exigences plus grandes, plus pointues. Mais parce que somme toute, ça a l'air un peu triste de le nommer comme ça, mais c'est un peu ça. L'écart entre le projet, l'idée, puis le résultat, cet écart-là fait en sorte qu'on se remet au travail et qu'on tente d'écrire autre chose. Et ultimement, mais l'idée pour moi d'un créateur ou d'une créatrice est de réduire le plus possible un jour cet écart-là entre le projet, le désir, la pensée et ce qu'on aura réussi à en faire. Alors, c'est comme si à chaque fois que je suis excitée, je me dis, je vais me rapprocher un jour, je vais peut-être y arriver.
c'est tout. Un choix de vie, comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin à cette trajectoire.
Mais non, parce que...
Alors, on va revenir quand même sur certaines de vos pièces. Des fraises en janvier. Hein, c'est quand même celle qui vous a fait reconnaître, je pense, comme un auteur. Et donc, qui a été beaucoup vu. Quelle a été l'impulsion première? Comment ce projet-là a démarré en vous? Et qu'est-ce qui vous intéressait dans ce type de sujet? Si vous voulez le résumer un peu pour nous, là, pour nous situer, mais ce qui m'intéresse davantage, c'est qu'est-ce... Parce que quand on commence, on se jette un peu à l'eau, d'une certaine façon.
Complètement. Puis c'est bien de la remettre en contexte aussi, cette pièce-là, parce que... Bon, c'est une pièce que je trouve valable et qui m'amuse, mais que je trouve quand même très, très loin de moi. Et paradoxalement, pour une certaine partie du public, c'est vraiment la pièce à laquelle on m'associe davantage. Et il faut remettre en contexte que c'était donc un théâtre d'été qui m'a fait une commande, qui m'a fait confiance. Un théâtre de création, mais quand même un théâtre d'été. Donc,
plus léger d'habitude.
Oui, c'est ça. C'était fait pour... avec quand même des paramètres assez précis. 4 acteurs, pas plus. Bon, pour des raisons budgétaires. Et donc, même sans qu'on m'explique, je savais très, très bien l'esprit que, qu'on attendait d'une pièce comme ça en été. Et je l'ai fait le plus honnêtement et le plus honnêtement possible, tout en n'ayant aucune pression. C'est ça qui est drôle avec le recul. On s'aperçoit que... Moi, on me dit « Ah, oh, ça te tente-tu? » J'ai dit « Ah oui, d'accord. » J'avais jamais vraiment écrit. J'avais écrit, mais en tout cas, j'étais pas...
Il y a rien qui avait été joué encore de
Non, ben, ou des lectures, des choses comme ça, très, très... mais jamais une équipe de concepteurs s'était penchée, puis éventuellement une équipe d'acteurs, puis un metteur en scène. Toute cette machine-là autour de cette matière première qui est le texte, j'avais jamais eu droit à ça ou vécu ça. Et ça a été beaucoup plus après que je me suis dit, ben, est-ce que je fais ça de ma vie ou pas? Là, c'était comme une espèce d'occasion bénie, mais c'est après que ça a été plus difficile de dire, OK, bon, maintenant...
D'être étiqueté avec
ben,
cette
pièce. Ben, d'une part, et tout à coup, on me disait, presque on m'annonçait, t'es une auteure de théâtre. Moi, j'avais pas vraiment décidé d'être une auteure de théâtre. Alors, tout à coup, je grossis un peu, mais vous comprenez ce que je veux dire. Tout à coup, on m'apprend que je suis une auteure. Après, on dit, OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, faut écrire du théâtre, maintenant. Ah bon? Ben, moi, j'avais pas envie de faire la même chose. Alors, j'aurais pu, comme... Ben c'est le risque de plusieurs créateurs, hein, des fois qui commencent fort. Ben, il y a le phénomène de la nouvelle voix, la jeunesse. Je suis très, très consciente aussi d'avoir bénéficié de ce que je considère quand même un fléau là, dans notre société, c'est-à-dire le culte de la jeunesse, de la spontanéité, de la nouveauté. J'en ai profité. Les médias ont été très curieux, mais je considère quand même que c'est un fléau, entendons-nous. Mais après, on peut pas être la jeune nouvelle tout le temps. Ça fait longtemps que je suis plus la jeune nouvelle, puis j'ai d'autres responsabilités que d'être une jeune nouvelle. Puis c'est.
Ouais. Je peux comprendre qu'à un moment donné, mais c'est peut-être qui a été l'aiguillon pour continuer d'écrire finalement, pour prendre vos distances par rapport au premier succès que vous avez eu.
Sûrement, il y a sûrement eu de ça. J'ai fait. Hey,
Mais quand même, moi, c'est une pièce dans le genre, comme vous avez précisé. Bon, je veux pas avoir l'air trop professeur d'université, là, mais de dire vaudeville postmoderne, moi, je dirais. Parce que il y a une sorte de légèreté, mais qui ne tombe jamais dans la facilité. Et donc, c'est très amusant. C'est fait avec une grande... capacité de construction. La construction est remarquable dans cette pièce. Et ça, c'est quand même aussi un autre aspect de votre écriture. C'est assez fragmenté, sauf peut-être Bachir Lazare, c'est un monologue, mais même dans cette pièce, vous faites des flashbacks, oui. il y a des sauts temporels. Et bref, j'aimerais savoir comment vous procédez. Est-ce que vous écrivez des fragments que vous remontez un peu comme un film? Parce qu'on pourrait faire l'analogie aussi avec le cinéma.
Oui, oui, oui.
C'est-à-dire que est-ce qu'on n'est pas à une époque où même écrire du théâtre, c'est écrire avec un autre modèle que d'écrire dans le temps? Enfin, il n'y a pas si longtemps.
Mais très certainement, il y a... Mais il y a d'une part, vous parliez du nouveau théâtre expérimental. Je crois que mon travail est teinté de l'esprit de cette compagnie-là, qui est la recherche d'un renouvellement des formes et des conventions théâtrales. Donc c'est sûr que moi, ça m'amuse
même avant le propos, d'essayer de renouveler la forme. Ce que j'entends par là, c'est que, pas d'une manière gratuite, parce que par exemple, dans Bachir Lazare, bon, moi, j'appelle pas ça un monologue, parce que pour moi, c'est pas un monologue, c'est un dialogue troué. C'est-à-dire que il est toujours en dialogue, mais.
Il s'adresse tout le temps à quelqu'un,
mais on voit pas ce que l'autre. On voit que la réaction. C'est quelqu'un qui est toujours en train de réagir. Alors ce que je veux dire par là, c'est que il y a la recherche formelle d'une part, parce que c'est un exercice de style à trouver, puis d'autre part, pour moi, ça a du sens par rapport à ce personnage-là, parce que c'est un personnage qui est seul, c'est un étranger qui arrive ici, il est seul, il est presque traqué, donc je trouvais que dans la forme, qu'un acteur soit seul en lumière et apporter cette histoire-là, ça avait un sens pour moi. Mais c'est aussi, comme vous le dites, une recherche formelle qui, j'imagine, est influencée comme beaucoup de créateurs par le cinéma ou cette idée de clip, ça va plus vite. Et les spectateurs aussi ont changé, c'est-à-dire que des fois dans des structures dramaturgiques du répertoire, des fois on trouve ça long, on a compris bien avant qu'on a compris. Et puis, ça continue, ça nous réexplique d'une autre façon. Puis, c'est du beau répertoire, mais je crois que si quelqu'un écrivait comme ça aujourd'hui, je crois que les spectateurs auraient l'impression de comment dire, ce serait pas agréable.
Je vais faire l'avocat du diable. Je sais pas si vous avez vu la production de Claude Régis, Homme sans but.
Non, non.
Mais là, c'est l'inverse de notre propension à souhaiter un théâtre, je dirais, hyperactif, appelons-le comme ça, puis ça vise pas le veau. Mais, disons, une sorte de temps qui est vraiment peut-être découpé. Il y a une demande, c'est vrai, pour ça, puisqu'on est dans une culture de la vitesse, l'impatience. Mais, en revanche, dans cette production, c'est de la lenteur extrême. Et évidemment, au début, là, je vais parler de mon expérience de spectateur, on est comme inquiet de la lenteur même. Hein? Et il faut s'y faire, puisque c'est là, je pense, une des clés de la production. Bon. Alors, bref, c'était une parenthèse pour dire que je vois très bien la nécessité d'une écriture du montage. Je pense actuellement c'est sûrement une voie.
Mais je ne veux pas dire non plus que ce soit le modèle de ce qui est contemporain ou moderne au théâtre.
Ou la seule voie,
pas du tout. Oui. Je veux juste dire que cette forme-là, par exemple, des ordres publics, aurait peut-être pas pu être reçu. Je saurais pas chiffrer là, mais j'ai le sentiment qu'aujourd'hui ça peut être reçu parce qu'on a apprivoisé comme public des codes, des façons de des raccourcis, c'est ce que j'entends. Mais heureusement que justement dans toute la recherche formelle et de structure et au théâtre, ça laisse.
Il n'y a pas de limite dans le fond.
Ben non, puis ça laisse la place à toutes sortes d'objets. C'est fantastique.
Alors, on va revenir à vous avez beaucoup collaboré ou travaillé avec le Nouveau Théâtre Expérimental. Bon, là aussi, on est toujours aux prises avec des étiquettes qui peuvent être ennuyeuses. Vous êtes à la fois. L'auteur des fraises en janvier, et puis voilà, ça vous définit pour toujours. Mais est-ce que, par ailleurs, le fait que vous soyez souvent associé au Nouveau Théâtre Expérimental et à l'Espace Libre, est-ce que ça vous gêne, même si vous avez commencé par dire, c'est vrai, que c'est un lieu qui vous laisse beaucoup de liberté?
Oui.
Néanmoins, je pense que pour un auteur, c'est souhaitable qu'il ne soit pas prisonnier d'un seul théâtre ou d'une seule équipe, quels qu'en soient les mérites. Donc, mais quand même, situez un peu comment vous voyez votre travail au sein du Nouveau Théâtre Expérimental, parce qu'à mon avis, il est différent de ce qu'ils font par ailleurs, assez différent.
Oui, aussi, oui. Mais c'est sûr que je me sens très, très...
une véritable et profonde affinité artistique avec ce théâtre-là, pas nécessairement dans toutes les productions qu'ils ont présentées, mais plutôt dans la façon d'aborder le travail. Jean-Pierre Ronfard, qui nous a quittés, a été donc mon premier employeur, le premier homme aussi avec qui j'ai discuté profondément de théâtre, de littérature, d'art. J'étais très, très, évidemment très, très inculte à côté de lui, puis il y avait la délicatesse de ne pas trop me le faire sentir. Donc c'était et stimulant et confortable. et cette espèce de vraie prise de risque, parce que je trouve que la notion de prise de risque, il y a beaucoup de directions artistiques qui s'auto-proclament preneurs de risque sans l'être vraiment.
Des noms.
Pas nécessaire. Mais une vraie prise de risque, c'est-à-dire que de sentir que profondément, et pas seulement dans les mots, le spectre de la rentabilité est absent, pour vrai. Donc, c'est sûr que ça constitue un laboratoire formidable. La naissance des ordres publics qui a été Aphrodite en 04, Jean-Pierre avait pris des acteurs complètement inconnus, je veux dire quand même 8 acteurs. Pour ceux qui connaissent un petit peu la gestion d'un théâtre, une production à 8 acteurs, d'habitude, tu t'arranges pour que ce soit un hit, parce que sinon tu perds tout. Prendre un risque à 2 acteurs à la rigueur, mais à 8, ça coûte extrêmement cher. Mais lui, il avait envie de ça. D'avoir un texte qui se transformerait. Bon, c'était une grande confiance. Et je crois que cet esprit-là perdure au Nouveau Théâtre Expérimental, même sans Jean-Pierre. Mais à la fois, je crois que c'est pas pour rien non plus que mon parcours a fait en sorte que je suis allée vers toutes sortes d'autres théâtres et d'autres créateurs, parce que je crois que mon chemin n'est pas non plus dans l'expérimentation à tout prix.
D'ailleurs, le mot expérimental est peut-être devenu obsolète.
Peut-être.
Au sens où on l'a beaucoup utilisé mm-hmm. pour qualifier bien des choses. Il me semble appartenir à une époque un peu comme on a pu parler des avant-gardes historiques.
Ouais.
Et qui, par définition, justement, correspondent à une période bien particulière. Puis le mot expérimental me semble être du même ordre. C'est difficile à définir, puis peut-être qu'on ne pourra pas le définir ce soir. Mais on est peut-être dans le post-expérimental.
C'est ça. Mais c'est vrai, c'est autre chose. Puis c'est vrai que ça a servi à beaucoup de choses, ce mot-là. Mais je crois aussi que ce qui à la fois... je crois que mon envie d'essayer des choses, puis d'aborder le théâtre comme une plage, un laboratoire, fait en sorte que je suis très attachée à ce lieu-là, puis à cette équipe-là. Mais à la fois, je crois que mon rapport à l'écriture est très, très différent. Quelque part, peut-être... Je dis ça, puis c'est comme si je parlais en leur nom, mais j'ai l'impression que c'est ça. Peut-être que mon rapport à l'écriture est un petit peu trop sacré par rapport à justement cette idée de... C'est avant tout la prise de risque, avant tout créer des objets qu'on pourrait pas forcément voir monter ailleurs, avant tout bousculer les conventions.
L'éphémère même, hein, savoir c'est pas grave ça.
Oui, puis c'est pas si important comment c'est écrit, c'est ce qui se passe. Et puis encore une fois, je dis ça, c'est pas du tout un jugement de valeur, c'est juste que comme auteur, à moins d'être vraiment dans cet esprit-là aussi, tu peux pas t'épanouir complètement dans un contexte de création qui est celui-là. Parce que pour moi, le choix des mots est extrêmement important, la ponctuation est extrêmement importante. Je ferais chier tout le monde là-bas. Non, mais c'est très important. C'est bien important.
Je suis bien d'accord. Nous voilà d'accord. C'est l'importance de la ponctuation.
Ah oui, monsieur, j'adore. C'est bien important.
Dernière question avant de laisser la parole aux gens, puisqu'on se rend compte et ce serait dommage de ne pas entendre des gens aussi.
Ben oui.
Dernière question sur le féminisme. Parce que, évidemment, vous êtes déclarée sans vergogne féministe.
Oui, ben oui, je pense que oui.
Et donc, non, mais blague à part, j'étais heureux de lire, bon, je pense que c'est un article où la question avait été soulevée. Je vais vous laisser répondre, là, je veux pas. Mais il me semble que votre œuvre, justement, ne correspond pas au canon féministe pour autant. Donc, est-ce que vous êtes féministe, mais sans l'être, c'est quoi?
Mais c'est tellement compliqué avec ce mot-là, parce qu'on dirait qu'il veut dire tellement de choses différentes selon les gens.
Concedo.
Alors, mais je suis consciente, comment dire? Je suis consciente que ça fait pas partie de moi l'agressivité ou la combativité même qu'on pourrait associer au féminisme.
Qui a été la marque... qui a déterminé beaucoup, même le positionnement et des femmes et des hommes à l'égard du mot.
Puis qui était sans doute nécessaire aussi. Mais ce que j'ai senti chez moi, en tout cas, c'est une espèce de pudeur qui m'a quittée à me déclarer et à admettre que mon écriture était celle d'une femme. Et donc éventuellement celle d'une féministe, puisque préoccupée par la condition féminine. Et c'est vrai que au début de mon parcours, honnêtement, j'aurais aimé être un homme. Je me suis dit, oh, zut, j'y ai pas pensé à temps d'avoir un pseudonyme, parce que là, ma parole est reçue comme d'abord celle d'une femme, et puis j'ai pas le droit à la même, au même traitement que les hommes, c'est sûr, parce que je suis d'abord une femme qui écrit. Ça m'encombrait beaucoup. Et puis, puis après, je me suis dit que j'avais décidé que ça m'encombrerait plus, finalement. Mais cela dit, je trouve qu'au Québec, on a la chance... puis je suis consciente que toutes les femmes ne tiennent pas ce discours-là, mais moi, c'est ce que je ressens, qu'au Québec, on a la chance quand même que notre parole soit reçue comme celle d'un homme auteur. Je veux dire, je me sens pas...
Mise à part
ou enfermée dans la parole d'un groupe de femmes. Ou en tout cas, je le sens pas davantage que quand on fait des espèces de groupes de ma génération. Tu sais, on le fait aussi avec ma génération, donc éventuellement avec mon sexe. Puis ça prend pas tant de place que ça, je trouve, par rapport à la France, par exemple.
Oui. Mais est-ce que vous avez pas un peu le sentiment que les auteurs féminins ont plus de mal quand même encore aujourd'hui à faire le chemin, je parle en général là, je parle pas d'un cas comme le vôtre, mais est-ce que il me semble qu'en règle générale je vois les femmes avoir plus de difficultés à être jouées par rapport aux hommes, bien sûr.
Je sais pas, je serais curieuse de voir, parce que dans les saisons théâtrales, c'est paradoxal, hein. Moi, oui, vous avez raison, mais peut-être, je m'avance parce qu'il faudrait que je réfléchisse davantage ou que j'ai des données dont je sois sûre qu'elles soient justes, mais il me semble qu'au Québec, il y a beaucoup de femmes à la direction de théâtre ou dans des positions pour engager des auteurs femmes, et c'est vrai que peut-être que le fait qu'elles soient elles-mêmes des femmes, peut-être qu'il y a la crainte d'être taxée d'avantager des saisons féminines, ou alors qu'elle se pose pas la même question s'il y a quatre productions.
Mais c'est parce que tout le répertoire est massivement représenté par des hommes. Donc, dans les théâtres, plus prestigieux, bon, disons que le mot entre guillemets, évidemment, une saison est composée, il y a presque quatre pièces sur cinq, sinon plus, hein, d'auteurs masculins, puisque le gros du répertoire est signé par des hommes depuis des siècles.
Oui.
Donc, je sais que Paul Pelletier, que vous connaissez, puisque vous avez travaillé avec elle, ça hérissait justement devant ce déséquilibre que le théâtre, bon, veut pas être obligé de porter encore de nos jours. Quoique, moi, j'ai toujours dit, pourquoi ne pas jouer de répertoire en distribuant les rôles masculins à des femmes. Moi, j'aurais aucune objection.
Oui, mais il faut voir aussi, est-ce que les hommes se commettent plus? Est-ce que les directions de théâtre reçoivent plus de projets conçus, pensés ou écrits par des hommes? Je ne sais pas.
Ouais.
Parce que ce ne serait pas non plus, d'après moi, une bonne idée de faire de la discrimination positive.
Mais dans le féminisme, j'y reviens pour terminer. Est-ce que c'est une question de sensibilité? Au sens où vous avez à cœur d'entendre des questions que portent les femmes aujourd'hui, qui ne sont pas tout à fait les mêmes que celles d'hier ou d'avant-hier. Et si c'est le cas, est-ce qu'il y a un certain nombre de questions, par exemple, le couple, évidemment, parce que vous en abordez passablement les relations de couple dans vos pièces, mais pas seulement, là. Et est-ce qu'il y a des dimensions du vécu féminin qui vous interpellent davantage aujourd'hui?
Je crois que oui, puis je me sens assez solidaire de la plupart des femmes de ma génération, ou en tout cas pour en avoir discuté avec elles. C'est l'espèce de... Et c'est pas super confortable, d'où le fait que j'écrive, j'imagine. Je crois que on a vu beaucoup des générations de femmes qui nous ont précédées, qui avaient des idéaux très forts, une conscience sociale ou justement féministe, et qui ont été amenées à avoir des rêves, des projets plus grands justement que celui d'une famille ou d'un couple ou d'un ménage. Et j'ai l'impression que souvent, évidemment pas tout le temps, mais très souvent, leur vie intime et personnelle, paradoxalement, a été très décevante, un échec, une espèce de d'incompréhension au niveau du couple. En tout cas, je sens que moi-même et certaines femmes de ma génération qui m'entourent ont été témoins de ça. D'où le fait que j'ai le sentiment que la réussite d'une vie à deux, quand c'est le cas, prend beaucoup de place dans nos préoccupations. De dire...
C'est important.
C'est petit, mais c'est important, et nos mères ne l'ont pas réussi. Alors, ce qui est inconfortable, c'est qu'à la fois, ça semble très, très fermé, très, très petit, parce que ça concentre les énergies sur l'idée d'un couple qui s'épanouisse au fil du temps, d'une famille qui soit unie, heureuse, qui des enfants qui reçoivent une maternité adéquate, mais à la fois, le paradoxe de ça, même si c'est noble comme objectif, je crois, c'est qu'à la fois aussi, c'est très refermé sur son petit noyau qu'on essaie de préserver. Et des fois, on se dit, mon Dieu, mais c'est petit, on a envie de s'impliquer d'une manière plus vaste, plus grande, plus en tout cas, moi, personnellement, c'est mon paradoxe de femme, et je crois qu'il est assez partagé par les femmes de ma génération.
Bien. Alors, nous vous donnons la parole. Il y a un micro au milieu de la salle. C'est mieux de l'utiliser parce que c'est enregistré par Radio Spirale. Il sera diffusé sur Internet dès demain. Bientôt. Grâce à Patrick Poirier, qui est le directeur de Spirale.
Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire par le fait de...
Si, tout à fait.
Okay.
Vous en doutez?
Non, mais...
mais je comprends, parce qu'en même temps, ça fait pas du bon théâtre non plus, nécessairement, puisque, évidemment, tout peut être possible. Mais ce que je veux dire, c'est que juste cette dimension-là ne suffirait pas à nourrir tout un matériau dramaturgique. Il y a besoin de tensions qui travaillent de l'intérieur. Comme vous dites, le petit cocon amoureux et familial, peut contraster avec la perte, le sentiment de perte, en tout cas, que vous éprouvez par rapport à vos prédécesseurs. Mais
c'est la cohabitation du chaos puis de la
recherche.
Mais
il y a cette demande, je dirais, d'une vie réussie. C'est quoi une vie réussie?
Ouais.
Et c'est une grave question.
N'est pas sorti du
bois. Et qui, évidemment, ne peut pas se résoudre qu'à deux, là.
Non.
Très bien, monsieur.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
J'aimerais savoir si votre expérience de comédienne a une influence sur votre façon d'écrire. Tout à l'heure, vous avez dit que vous faites des va-et-vient entre votre écriture à la maison et puis on vous imagine dans la scène ou sur la scène. Dans quelle mesure est-ce que ça influence votre écriture? Ça, c'est... Et puis d'une façon générale, chez les auteurs, est-ce que beaucoup d'auteurs ont été comédiens ou c'est exceptionnel, un peu comme vous?
Mais d'abord, c'est une bonne question parce que c'est vrai que ça a une grande influence. Je crois que le même sans écrire pour moi comme interprète, parce que c'est très rare que je le fasse, c'est sûr que j'écris dans la conscience qu'éventuellement il y aura interprétation, donc mise en bouche des mots, d'où une écriture qui est très 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 auditive et qui est très axée sur le plaisir éventuel d'un échange entre deux acteurs. Et je crois que ça influence le rythme de l'écriture, le choix des mots, cette espèce de musique qui éventuellement va être en bouche, je crois est très influencée par mon expérience de comédienne parce que c'est comme si je connaissais le plaisir d'un dialogue ou d'un échange qui je sais pas comment dire, c'est presque sensuel quand ça fonctionne, à ce niveau-là, ça, c'est d'une grande influence sur l'écriture. Et puis, ensuite, c'est une bonne question parce que j'ai le sentiment qu'en ce moment, puis on en a parlé aussi un petit peu, les médias, tout ça, il y a plusieurs acteurs qui se sont mis à écrire.
Mais ça, il y en a depuis longtemps.
Depuis longtemps, mais il n'y a pas comme une espèce de vague, là, non?
Non, c'est vague par-dessus vague.
Ah oui? Je n'étais pas consciente de ça.
Non, ce que j'appelle, moi, j'ai tout un sujet de recherche, j'appelle la dramaturgie de l'acteur.
Ah oui? Et puis, donc, c'est depuis toujours?
Paul Pelletier, Robert Gravel, Alexis Martin, Wajdi Mouawane. Évidemment, il y a une très grande variété. Quand je dis dramaturgie de l'acteur, je ne veux pas dire qu'il y a une façon d'écrire. Mais ce sont des acteurs qui écrivent pour le théâtre. Donc, c'est pas des littéraires, si vous voulez, ou des gens formés dans une autre discipline que le théâtre. Bon, il n'y a pas d'exclusive, hein, mais c'est très répandu, au contraire.
OK, donc c'est pas récent du tout. mais
c'est une caractéristique, je pense, par rapport à la France, si on veut comparer. En France, c'est tout différent. Il y a des acteurs qui écrivent aussi pour le théâtre. Mais je dirais, le genre en est qualifié souvent plus ou moins méprisable.
Ah, oui.
Parce que c'est souvent plus léger, les acteurs qui se donnent un rôle, et puis voilà. Et en France, on a un grand culte de l'écriture, avec un grand E, accent aigu. Et donc, c'est toute la tradition. Jean Genet n'était pas un comédien. C'était un histrion, mais c'est pas un comédien. Donc, il se projetait dans le théâtre, mais c'était d'abord un Beckett, enfin, et tant de grands auteurs, là, pour nommer les plus connus.
Oui, c'est vrai.
Mais il y a une tradition littéraire qui s'assume très bien. Et évidemment, ils ont du mal, parfois, même avec notre propre dramaturgie, parce qu'elle est plus orale. Même si, et c'était ma question, c'est vrai ce que vous dites, puis en même temps, votre langue, je ne dirais pas qu'elle est littéraire, mais elle n'est pas joualisante et elle est à peine québécisante. Hein? Ben, y a des mots, il y a des expressions ici et là. Mais est-ce que c'est délibéré? Vous avez ce souci d'une langue que je dirais, bon, c'est une langue fictive, hein? Mais, en tout cas, c'est pas la langue, je sais pas moi, de Michel Mabouchard ou de... Encore que là, on pourrait faire des nuances. Lui non plus, il écrit pas en joual. Bon. Mais quand vous avez commencé à écrire, est-ce que c'est un choix délibéré de dire « J'écris une langue qui sera la mienne dans un sens, là, mais qui n'est pas très marquée par des marques d'oralité, justement. » Qu'on associe souvent au langage populaire ou familier.
Le seul choix délibéré a été justement d'aller vers
ma langue qui serait la plus authentique possible. Je suis consciente que je suis québécoise, mais que j'ai de père français. Culturellement, je crois que je navigue un peu
d'où le nom de famille.
Oui, c'est ça. Donc, je me suis pas dit quelle sera ma langue. Je me suis dit, plongeons le plus honnêtement possible
quoi. Vous avez pas eu à vous poser des questions existentielles, c'est que dans quelle langue j'écris? J'écris non. Dans la langue dont j'ai hérité, en quelque sorte, qui est mon patrimoine culturel.
Oui, puis qui est une façon aussi, cette fois-ci, oui, je l'assume, très intime, je crois, de nommer le monde, de nommer
les choses.
Elle
n'a aucune affectation, elle est très naturelle, elle est très... Je parlais de justesse des personnages, ça vient évidemment beaucoup de la langue que vous utilisez, qui a cette capacité... d'aller à l'essentiel, d'être économe, d'être vraiment très juste. C'est le seul terme, à mon avis, et je le préfère à authentique.
Ah oui?
Parce que moi, authentique, bon, tout le monde est authentique. Comment départager les authenticités? C'est ça que...
Pour moi, l'authenticité, c'est comme la liberté. On peut avoir l'impression d'être libre et authentique sans l'être.
D'accord.
Donc, c'est pour ça que c'est un
c'est
mot...
C'est ce que je vous dis. Donc, on ne peut pas
prétendre
à l'authenticité. Quel va être le critère? Alors que la justesse, à mon avis, c'est plus précis.
D'accord, c'est correct. je continue à parler d'authenticité.
Bon, question dans la foule? Personne? Allez. Oui, micro.
Radio Spirale.
Radio Spirale demande.
En fait, juste une petite question, ça n'a pas été abordé. Je voulais savoir si vous aviez des modèles de dramaturge quand vous écrivez vos pièces. Est-ce que vous avez des auteurs qui vous accompagnent dans votre écriture?
C'est une belle question parce que c'est sûr que la lecture fait beaucoup partie de ma vie. Puis, paradoxalement, je me sens plus... plus inspirée par des romanciers que des dramaturges. Mais j'admire plein d'auteurs de théâtre, mais ce que je veux dire, c'est qu'on dirait que j'ai comme une pudeur d'identification parce que je trouve tellement que c'est piégeant des fois de l'amour de quelqu'un qui fait le même métier que soi est un piège aussi parce qu'il faut à la fois s'en détacher. Tandis qu'avec le roman, je sens qu'il y a moins de risques. Hein? Et puis, moi, je sais que j'ai eu beaucoup de plusieurs chocs littéraires qui ont marqué ma vie. Ça va de Victor Hugo à Romain Gary, à James Joyce. C'est très varié. Puis, je sais pas pourquoi, on dirait que davantage encore que leur œuvre en elle-même, ça a été... ce qu'elles ont déclenché chez moi d'espèces de rendez-vous magiques. Hein. Ça arrive des fois avec des œuvres. Ça arrive avec des œuvres visuelles. Ça arrive, je l'espère, parfois au théâtre aussi. Et puis, ça a été... En fait, ce qui me nourrit, c'est la quête de ce genre de rencontre magique avec des œuvres qui fait que je lis et que j'espère créer ça moi aussi comme créatrice.
Une simulation et une sorte de défi que quand on a lu des auteurs qu'on a estimés, qu'on a admirés, ça devient comme une mesure pour soi-même en quelque sorte, une façon d'intérioriser les défis qui nous attendent nous-mêmes, d'avoir le goût d'être légal ou de ces auteurs admirés?
Oui, mais je dirais davantage encore de créer cet impact-là un jour sur quelqu'un. Cet impact qui a correspondu à un moment donné de notre vie à un tel comment dire...
Bonheur.
Un tel bonheur, mais même plus qu'un bonheur, une espèce de soulagement, une espèce de certitude de n'être pas seul au monde.
Quelqu'un a vécu ça, oui, a éprouvé ça.
Cette
découverte-là est toujours très troublante.
C'est troublant, c'est extraordinaire. Oui. Et puis, je trouve que, en tout cas, moi, ça m'excite plus d'envisager ça que d'envisager
toutes les manifestations de la validation, soit par la critique, soit par... parce que, oui, bien sûr, je m'exclus pas de tous les autres, et oui, on a besoin d'être reconnu par ses pairs, et par, etc. Mais à la fois, je suis tellement consciente que parfois, c'est tellement injuste. Vous parlez de justesse, là. Moi, je parle injuste dans le sens que...
Injustice.
D'injustice, mais même aussi, ce n'est pas juste. Je trouve qu'on on reconnaît pas justement le travail. Et alors ça ne pourra jamais me combler. Même si j'avais, comment dire, je sais pas, même si j'étais encensée, là, ça ne pourrait pas me combler parce que je n'y crois pas. Je n'y crois pas.
J'avais raison.
J'ai raison.
C'est très bien, c'est très sage. J'ai une autre question plus indiscrète encore.
Oh boy. Pensez.
Est-ce que vous avez un double?
C'est quoi?
Je vous dis ce qu'il y en est. Dans une entrevue qui m'a, moi, bouleversée, de Nathalie Sarraute, conduite par Claude Régis, que j'ai visionnée, elle datait déjà de dizaines d'années, elle avait plus de 90 ans, la dame. Et dans cet entretien avec Claude Régis, elle parle du double de l'écrivain.
OK.
Et j'en viens à ma question. Dit le double est très dangereux parce qu'il est double. Parce qu'il tantôt il nous dit comment on est bon quand on écrit. Comment ce qu'on fait est formidable. Et qu'en même temps, il nous dit bah, c'est pourri, ça va rien. Méfiez-vous de votre double, vous, écrivain, vous, artiste.
Elle
a un double.
Ah ben c'est sûr, c'est terriblement destructeur. Faut ça.
C'est tout ce qu'elle disait.
Ah ben c'est ça l'est, puis c'est vrai. Puis j'imagine que ça peut s'appliquer à toutes sortes de professions puis de travail. Cette idée que tout à coup le regard posé sur soi-même est un regard d'une cruauté et d'une injustice aussi. Tant il ramène tout ce qu'on fait ou tout ce qu'on désire à des choses futiles, petites, mesquines, sans aucune noblesse. Puis c'est très désagréable, évidemment. Et puis d'autres fois, tout à coup, pour une raison mystérieuse, c'est l'inverse. Tout à coup, on est persuadé d'être dans un chemin très, très clair, très limpide. Et puis d'être exactement à notre place et de donner le meilleur de soi-même et plus encore.
Comment on fait pour parce que le double, il disparaît pas pour autant. Là. Il faut faire attention toujours. Il est toujours là, aux aguets.
Il faut travailler. Souvent, j'utilise la même image du cheval de trait. Je me sens comme un cheval. Je suis un cheval. Et quand les choses me dérangent, soit une espèce tout à coup d'hyperconscience du regard que les gens ont sur moi, ou de la réputation, ou de la non-réputation, ou de ce double-là qui vient hanter, je me transforme en cheval, puis je travaille. C'est tout.
C'est bien dit.
T'aimes ça, le cheval?
Avez-vous d'autres questions? Je vous invite à prendre la parole. Je pense que...
Sinon, j'aurai l'impression que vous vous êtes embêté si vous dites rien.
Non, ils sont intimidés. Ah, bon.
Merci.
Peut-être revenir un peu à l'authenticité, le double et tout ça. Donc, d'une part, est-ce que le double peut pas être représenté par le spectateur aussi, qui peut être aussi cruel ou d'une façon aussi dangereusement admiratif envers l'auteur? Puis vous parlez beaucoup donc de l'authenticité, et aussi il y a toujours la question du passage et du transfert qui revient dans vos propos. Donc comment peut-on parler d'authenticité quand on doit nécessairement passer par un transfert ou un passage à travers un autre corps ou à travers un autre médium, donc passage du roman au théâtre, de la musique à la littérature?
Ok, je vais commencer par le spectateur. Mais je crois qu'il pourra jamais atteindre le niveau de cruauté dont on est capable envers soi-même. Alors ça va, on est tranquille avec vous quand même. Et puis pour
même les critiques.
Même les critiques, parce que de toute façon on a une défense formidable. Les critiques, de toute façon
c'est des nuls.
Mais ce que je veux dire, c'est que
Ils ont rien compris.
Évidemment, ça, c'est très simple. On a toutes sortes de moyens pour attribuer son propre échec à l'incompréhension des autres. On est bien armé à ce niveau-là, ça va. Et puis, l'authenticité. Mais peut-être que j'emploie pas bien ce mot-là. Là, vous m'avez fait un doute, là, tout à coup. Mais en tout cas, je réfléchirai à tout ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que des fois, quand on écrit, puis qu'on a le sentiment d'être très, très, justement, très, très authentique, très, très... quand on a l'impression que c'est un geste super nécessaire, hein, une impulsion très vive, et tout à coup, on se sent très connecté avec soi, puis c'est très profond... Des fois, c'est vraiment mauvais artistiquement. C'est ça le problème. C'est qu'il faut transcender ça parce qu'on n'est pas si intéressant que ça, parce qu'un journal intime n'est pas une œuvre d'art, parce que le besoin d'écrire, pour moi, oui, est un moteur essentiel, mais c'est une idée quand même assez romantique de l'écriture qui n'est pas suffisante. Malheureusement ou heureusement, pour moi, pour parler d'un objet littéraire ou artistique, il doit y avoir quelque chose de froid aussi, c'est-à-dire une conscience de l'acte de création, si ce n'est une maîtrise, en tout cas un certain contrôle. Et parfois, on n'aime pas cet aspect de la définition de la création parce que ça, tout à coup, ça semble désacralisé ou ça semble quelque chose qui soit à la portée de tous. Il y a quelque chose qu'on n'aime pas. Hein. Là-dedans, on préfère garder cette aura de mystère, d'inspiration, de canal divin, des choses comme ça. Et pour moi... je crois que ce sont deux pôles de la création qui sont d'égale importance. C'est-à-dire que oui, bien sûr, il y a un phénomène inexplicable, et heureusement, sinon ce serait qu'une technique. Oui, il y a cette espèce parfois de miracle qui donne même physiquement des sensations très très concrètes, et ça existe, mais c'est aussi beaucoup plus rationnellement... justement, de se dire, ben voilà, ça ne fonctionne pas, ça c'est pas intéressant, ça m'a ému moi, mais ça a été maintes fois visité, c'est de courte vue. La spontanéité, ben parfois c'est un ramassis de clichés, la spontanéité c'est pas forcément magique. Donc c'est tout ce paradoxe-là dont je parle quand je parle et d'authenticité et de transfert, je pourrais dire... de transcendance aussi. C'est comme, faut être humble quand même, faut être conscient de notre petitesse dans nos réflexions, dans nos préoccupations, dans nos sentiments. C'est quand même, c'est petit, tu sais, on est quand même, c'est ça, on est quand même petit.
Mais la définition de justesse, vous l'avez donnée, conscience dans l'acte de création.
Oui.
J'ai beaucoup aimé cette formule qui vous est venue comme ça.
Oui, oui, comme ça.
Non, mais sans blague, je trouve que le mot d'authenticité, j'y reviens, il me semble être trop général et portant peut-être une dimension invérifiable parce que tout le monde prétend l'authenticité.
Oui, je comprends ce que vous voulez dire.
Alors que la justesse, c'est... En mettant un peu de chair sur le concept, ça peut rester un concept un peu vaseux aussi, mais il me semble que la justesse nécessite, hein, il y a une nécessité qui l'accompagne, que vous avez nommé la conscience dans l'acte. Autrement dit, on n'est pas juste branché sur le 220 et dire, voilà, j'ai des idées géniales et puis je suis un auteur et puis... Donc, je suis inspiré, vous savez. Là. Oui. Et par ailleurs, on n'est pas non plus juste un technicien.
Ben non, ce serait
trop
simple.
Que vous avez dit, c'est oui. Très juste, parce qu'il y a des gens qui sont des techniciens là toute leur vie. Mm. Et c'est dommage. Il y a des gens qui écrivent avec le dictionnaire des symboles, par exemple. Je pourrais vous en... Moi non plus, je ne nommerai personne.
Non, mais c'est déguisé, puis c'est agréable aussi, parce que c'est excitant intellectuellement. C'est déguisé, je trouve, son sens qui nous rend aptes à distinguer la nécessité de l'épanchement. ou le oui c'est ça, la nécessité de l'épanchement, la aller très très loin dans quelque chose versus la complaisance.
Ouais.
Tout ça se côtoie d'une manière très très c'est tout près tout ça. Oui, mais je suis absolument d'accord avec vous. Et parfois, je trouve qu'on on a une tendance à, comment dire, à surestimer parfois la valeur d'une œuvre, je vais dire théâtrale parce qu'on parle de ça, là, mais ça peut s'appliquer à d'autres domaines, à surestimer la valeur d'une œuvre théâtrale selon ce qu'elle nous a procuré au niveau des émotions. C'est-à-dire on a été touché. Bien sûr, c'est quelque chose de nécessaire en art. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui se passe. Mais pour moi, une œuvre d'art majeure ne s'arrête pas au niveau des sentiments qu'elle nous a procurés. Pour moi, une œuvre d'art majeure va s'adresser aussi à l'intellect, au cérébral. Et je trouve que parfois, malheureusement, au Québec, on a tendance à trop insister sur la nécessité d'avoir vécu une émotion, d'avoir comme si on consommait l'émotion, je trouve parfois comme spectateur ou comme critique ou même comme créateur nous-mêmes, une espèce de culte de l'émotion et du sentiment et qui va des fois condamner très rapidement des œuvres qu'on va décréter comme étant ah oh, c'est cérébral parlant sous-entend que ça m'a rien fait, pourquoi ça m'a rien fait? Mais à un moment donné, c'est pas que ça, l'art, hein? Je trouve que des fois, il faudrait un petit peu plus, souligner ou mettre en lumière des œuvres peut-être plus difficiles, mais qui s'adressent aussi, qui restent, qui sont exigeantes cérébralement, sans pour autant dire que ces œuvres-là nous auront rien fait vivre ou vibrer.
Ben oui, mais vous avez parlé d'exigence tout au long de cet entretien. Alors, c'est l'heure maintenant de clôturer notre rencontre en vous remerciant du fond du cœur de cette excellente communication.
Merci, c'est moi qui vous remercie.
Et je pense que, en tout cas, c'est toujours aléatoire, les rencontres publiques, mais cette fois-ci, je dois dire, j'étais très... touché par vos remarques et la façon dont vous concevez votre métier. Et je vous souhaite la plus belle carrière du monde, qui est déjà bien commencée, mais toute jeune encore. Alors, je vous remercie pour cette rencontre et à la prochaine.
Merci à vous. Merci. Merci d'être venu. C'est toujours agréable de voir que...
Il y a du monde.
Ben oui, non, mais c'est vrai, parce que c'est...
Oui, c'est bien, on a eu un bon succès, parce que des fois, on est un peu gêné, il y a trois personnes.
Merci beaucoup.
Mais tant mieux.
Non, c'est vraiment agréable, merci beaucoup.
Ah, c'est bien, hein?